Il y a plus de 2700 ans, le roi d'Assyrie, Sargon II, fonde une nouvelle capitale, Dur-Sharrukin. Elle s'étend sur 300 hectares, tout près de la ville actuelle de Khorsabad. Elle abrite ziggourats, temples, résidences de dignitaires et un magnifique palais royal. Ce projet grandiose fut mené à bien en une dizaine d'années, mais le roi n'en profita qu'une année. La ville tomba ensuite dans l'oubli pendant près de 2500 ans, jusqu'à ce que le consul Paul-Émile Botta la découvre en 1843. Partons flâner les yeux fermés dans la cour Khorsabad, au musée du Louvre, pour comprendre la grandeur de l'empire néo-assyrien et le funeste destin de cette ville. Nous entrons au Louvre, sous la pyramide, et nous nous dirigeons vers l'aile Richelieu. Nous pénétrons dans le département des Antiquités orientales. Il couvre 8000 ans d'histoire et abrite des trésors venus du Levant, de Phénicie, d'Anatolie, d'Iran. Nous traversons l'une des premières sociétés urbaines. Nous sommes en Mésopotamie, un des berceaux de notre civilisation, à l'époque d'Uruk, entre 3700 et 2900 avant notre ère. Puis, dans la salle suivante, le regard d'Ébie II, haut dignitaire de la ville de Mari, nous impressionne. Ses yeux de coquille et de lapis lazuli, cernés de bitume, nous fixent. Nous nous arrêtons un instant pour l'admirer. Il est en albâtre, il se présente devant sa divinité, assis, les mains enroulées en signe d'humilité. Une inscription en caractère cunéiforme révèle son nom, sa charge et celui de la déesse Ishtar à laquelle est vouée cette statue. Nous sommes toujours en Mésopotamie, vers 2350 avant notre ère. Mais poursuivons notre périple. Nous traversons maintenant la salle dite de Goudéa. Nous sommes plongés dans l'époque néo-sumérienne. Deuxième dynastie de Lagash, vers 2150 avant notre ère. Les statues nombreuses sont maintenant en diorite, cette roche noire, éruptive, dense, sombre, dure. Ces représentations du roi mesurent entre 50 cm et 1 mètre, peut-être un peu plus. Le poli de la pierre leur donne une brillance remarquable. Leurs formes sont simples, trapus, figés. Leurs mains, jointes en orang, expriment la piété du souverain. Nous avançons encore et franchissons une arcade. Changement d'échelle. Nous sommes toujours en Mésopotamie, cette région dont le nom signifie « pays entre les deux fleuves » et délimité par le Tigre et l'Euphrate. Nous sommes dans le nord de la Mésopotamie, en Assyrie, au pays du dieu Assur, aux confins de l'Irak actuel. Dans un pays n'ayant aucun accès à la mer, un pays exposé de toutes parts, qui déploya une politique résolument conquérante aux dépens des Syriens, des Babyloniens, des Iraniens, des Urartéens. Nous avons fait un grand pas dans l'histoire. Nous sommes sous le règne de Sargon II au 8e siècle avant notre ère. Nous nous apprêtons à pénétrer dans la cour du Louvre, dite cour Khorsabad. Nous sommes accueillis par des êtres hybrides, monumentaux, gigantesques. Ils sont en pierre blanche, en albâtre gypseux, aussi qualifié marbre de Mossoul. Ils mesurent 4,20 m de haut et presque 1 mètre d'épaisseur. Nous sommes frappés par leur monumentalité. Il ne s'agit pas de sculptures en ronde bosse, ce sont des hauts-reliefs plaqués au mur, des orthostates. Au moment de franchir cette voûte, nous sommes là, au pied de deux êtres identiques, impressionnants par leur taille, par la puissance qui s'en dégage. Ces êtres hybrides s'appellent des Lamassu en acadien, ou encore des Chedou. Ce sont des taureaux ailés, androcéphales. C'est donc le visage d'un homme barbu, au trait calme, serein, qui nous accueille, qui baisse le regard vers nous. Il porte une couronne presque cylindrique et tripartite. Des plumes, taillées une à une dans la pierre, sont comme plantées verticalement dans la partie haute de sa coiffe. La zone centrale du cylindre est animée, quant à elle, d'un décor de fleurs de rosette, gravées, finement et régulièrement disposées. À la base de cette couronne, les courbes élégantes, symétriques et harmonieuses de deux paires de cornes parallèles se détachent en haut relief. Elles dessinent un mouvement ascensionnel et viennent ici indiquer le caractère divin de cette figure mythologique. C'est une iconographie très répandue dans le Proche-Orient. Pour ne citer que deux exemples, la déesse Ishtar, représentée sur une plaquette en terre cuite, datant de la première moitié du deuxième millénaire avant notre ère, portait déjà une tiare à cornes. Plus près de nous, ici, sur l'un des reliefs de cette salle, le roi Sargon II, figuré face à un haut dignitaire, sans doute son fils, porte également une tiare à cornes. La sienne est à triple rang. Il est le serviteur du roi Assur. Il marque ainsi le lien avec la divinité. Mais revenons à notre Lamassu, à notre taureau ailé androcéphale. Des oreilles pointues encadrent le visage de l'homme. Elles viennent au contact des cornes. Ce sont des oreilles de taureau arborant de magnifiques boucles d'oreilles pendantes. Le visage de l'homme affiche un très léger sourire. Ses sourcils sont ostensiblement marqués par deux arcs joints. Son regard semble bienveillant. Il est confiant dans son pouvoir. Il n'a pas besoin d'être effrayant. Le nez est fin, son arête est droite. La bouche, joliment ourlée, vient prendre appui sur une barbe, signe royal, une barbe foisonnante. Celle-ci présente un aspect foncièrement décoratif par la régularité de ses motifs. En partie haute, des enroulements réguliers de petites spirales d'un centimètre de diamètre environ sont disposées les unes à côté des autres, les unes sous les autres, et forment des courbes parallèles qui suivent l'arrondi du visage. Sous le menton, le motif change. La barbe a une forme géométrisée. Elle constitue comme un parallélépipède aux bords adoucis. Des lignes horizontales parallèles sont constituées des mêmes enroulements que ceux que nous venons d'évoquer. Mais cette fois, ces lignes parallèles sont séparées par des segments verticaux, de petits segments verticaux, texturés comme hachurés, gravés de petites lignes horizontales. La barbe s'arrête à mi-poitrail. Mais ce poitrail de taureau massif, puissant, est lui aussi animé de motifs décoratifs d'une extrême finesse et d'une grande régularité. Ainsi, sous la barbe, une bande verticale de la même largeur est couverte des motifs d'enroulement, ceux que nous avons déjà évoqués à plusieurs reprises. De part et d'autre, les motifs de plumes ciselées reprennent ceux que nous avions vus en partie haute de la couronne, toujours disposés avec soin et régularité. Ce torse taurin, surmonté de la tête humaine couronnée, est soutenu par deux puissantes pattes de taureau. La paire de doigts de ses sabots est clairement marquée et réaliste. L'être hybride est face à nous, immobile, impressionnant. Il mesure 4,20 m de haut, rappelons-le. Si l'on parvient à s'arracher à cette impression de domination et de puissance, nous pouvons discerner une très fine ciselure à l'emplacement des genoux, comme si le sculpteur avait souhaité figurer schématiquement ou symboliquement l'articulation. Avançons un peu pour découvrir le profil de cette créature. Elle est aussi longue que haute. Elle mesure 4,30 m. Sur ce corps puissant de taureau figuré en haut relief, en très haut relief, se déploient des ailes d'aigle à triple rang de plumes. Elles symbolisent peut-être la vitesse d'action. Le motif est toujours le même que celui que nous avons décrit pour les plumes de la couronne ou pour la partie avant du torse, mais elles sont cette fois dans une dimension beaucoup plus grande et dans une organisation horizontale. Les ailes ont une immense envergure. Elles s'élèvent à 4 mètres de haut et s'étendent légèrement au-delà du corps puissant de l'animal. Sur l'abdomen, des côtes sont figurées par des lignes ciselées et viennent comme prendre appui sur trois lignes de motifs spiralés similaires à ceux de la barbe du personnage. La disposition régulière des plumes ou encore des boucles du pelage participe au calme, à la sérénité, à l'équilibre qui se dégage de cet être mythologique. L'aspect décoratif, le souci du détail de cet élément d'architecture monumentale est frappant. Approchons-nous un peu. Tiens, c'est intriguant. Notre taureau vu de profil a quatre pattes bien visibles et semble en mouvement. En effet, tous ces lamassous comptent 5 pattes en tout, ce qui donne une impression de statisme, d'immobilité, quand nous les observons de face, et de mouvement, lorsque nous les regardons de profil. Sur ces pattes, veines et muscles sont représentés avec vérité. Ces œuvres mêlent donc des aspects naturalistes, imaginaires, décoratifs, toujours de façon très équilibrée. Approchons-nous encore. Nous discernons maintenant sur les flancs du lamassou, entre ses pattes, de nombreuses inscriptions gravées. C'est fascinant. Il s'agit d'inscriptions d'une grande finesse en caractère cunéiforme, la première écriture connue, déchiffrée au milieu du XIXe siècle par des assyriologues comme Henry Creswick Rawlinson, Edward Hinks ou encore Jules Oppert. Cette écriture cunéiforme, à l'époque de Sargon, note la langue assyrienne. Il s'agit ici d'une inscription royale. Elle comporte la titulature du roi, ses hauts faits, ses vertus, ses exploits, bref, des messages de pouvoir, mais aussi des malédictions. Les malédictions qui viendraient frapper toute personne qui altérerait cette œuvre. Lisons. Les grands dieux et les dieux qui résident dans la ville de Khorsabad feront disparaître la personne de la mémoire collective ainsi que sa descendance et la soumettre aux pieds de son ennemi. C'est classique. Dans cet empire, il y a des règles à respecter et si elles ne le sont pas, les châtiments, souvent sévères, sont prévus. Ils répondent à des normes strictes, officielles, écrites, transmises par le bouche à oreille, connues de tous. Ces figures mythologiques hybrides, majestueuses, imposantes, surnaturelles, cumulent les pouvoirs des trois créatures. Ici, nous sommes loin de la bestialité associée au Minotaure. La sérénité, la bienveillance qui se dégage du visage donnent de l'humanité à ce corps violent, puissant. Ces créatures, qui dans certains cas servent à soutenir des voûtes, ont pour mission, quoi qu'il arrive, de protéger les accès à la ville et au palais. Elles empêchent le mal d'entrer. Elles étaient aidées en cela par des génies porteurs de situles, appelés Apkalou, ou encore par des héros porteurs de lions. Le Louvre nous offre à voir également ces iconographies sur de magnifiques reliefs. Nos lamassous étaient nombreux. Il y en avait probablement une trentaine de paires sur le site, tous colossaux, tous monolithes, tous construits avec les mêmes proportions mathématiques. Évoquons un instant leur matérialité. Ce marbre de Mossoul, cet albâtre gypseux, provient des carrières éloignées du Haut-Tigre. les lieux d'Abruri, Adia et Tastiat sont identifiés dans la correspondance. Les blocs étaient dégrossis avec des pics, puis transportés par traîneaux, radeaux ou bateaux. Ils ne pouvaient être transportés par le fleuve qu'une seule fois par an, au moment des crues printanières. Le calendrier devait donc être soigneusement respecté. La tâche était ardue, comme en témoigne cet épisode relaté dans une lettre du gouverneur de Kalkou à Sargon II. Je cite « Au roi, monseigneur, ainsi parle ton serviteur Assurbani. Bonne santé au roi, monseigneur. Assur Shumukain, il évoque ici le responsable des tâches concernant les statues colossales de taureaux androcéphales. Assur Shumukain, donc, m'a appelé pour que je l'aide et il a chargé les taureaux colossaux sur les bateaux. Mais les bateaux ne pouvaient pas porter un tel poids et ils ont coulé. À présent, bien que cela me coûte beaucoup de tracas, je les ai repêchés. Pour les déplacements terrestres, 300 hommes étaient réquisitionnés pour tirer les traîneaux sur les chemins en rondins. Dans le palais de Ninive, autre capitale de l'Empire assyrien, où l'on a retrouvé une quarantaine de lamassous, un bas-relief dépeint avec précision l'ampleur de la tâche que représente l'extraction de la pierre, le travail du sculpteur et le transport de ces colosses encadrés par l'armée. Ces lamassous, ces chédous, ces manifestations sont parmi les plus impressionnantes de l'art assyrien. Un art qui a des fonctions symboliques, architecturales et politiques. Des fonctions politiques ? En effet, à l'époque mésopotamienne, les rois sont soucieux d'acquérir du mérite aux yeux des dieux et de la gloire aux yeux des hommes, en ordonnant notamment l'édification de bâtiments. L'empire assyrien est connu comme un empire de guerriers, mais il est aussi un empire de bâtisseurs. Et en cela, Sargon II s'inscrit dans la tradition. Il mène des campagnes sur des fronts très éloignés, aussi bien dans les Lames, contrées de l'ancienne Perse, qu'au nord-ouest de l'empire. Mais il est également soucieux de réaliser une œuvre architecturale sans égale. J'ai construit des palais d'ivoire, d'érable, de buis, de mûrier, de cèdre, de pin et de pistache. J'ai gravé mon nom sur des tablettes d'or, d'argent, de bronze, de plomb, de magnésite, de lapis-lazuli et d'albâtre, placées dans les fondations. Puisse un futur prince restaurer mon travail, inscrire un texte commémoratif et le mettre à côté du mien. Il est temps d'évoquer la personnalité de Sargon II. Il est cité dans la Bible, très brièvement dans le livre d'Isaïe, mais certains le voient comme un véritable personnage de roman, comme un usurpateur. Des éléments du début de son règne semblent venir étayer cette affirmation, même si aujourd'hui, des études nuancent cette interprétation. En quelques mots, à la fin de l'année 722 avant notre ère, il succède à son demi-frère Salmanazar V, en prétendant que ce dernier aurait été déposé par les dieux. Il prend alors le nom de Charoukin, qui pourrait se traduire par « le roi est légitime, le roi établi ». Confronté à une forte opposition interne, il déporte la première année de son règne 6300 Assyriens. Il décide de quitter la capitale Assur pour fonder une nouvelle capitale, Dur-Sharrukin, forteresse de Sargon. Et pour finir, il mène une politique de rupture tout au long de son règne. Usurpateur ou non, il est à l'origine de ce projet pharaonique. Voyons maintenant comment cette ville nouvelle est sortie de terre. Elle n'est pas la première dans l'histoire du Proche-Orient. Mais ici, les tablettes de fondation, les inscriptions sur les reliefs et les archives assyriennes, notamment la correspondance de Sargon II avec ses gouverneurs, dignitaires et agents, nous donnent énormément d'informations. C'est passionnant. Tout d'abord, le roi exproprie en bonne et due forme les résidents du lieu. Il écrit « Je remboursais à leur propriétaire, en argent et en bronze, le prix des champs de cette ville, tel qu'il était stipulé dans les tablettes d'achat, et, afin d'éviter le mal, à ceux qui ne voulaient pas du prix de leurs champs, je donnais champ pour champ là où ils le voulaient. » Ensuite, il place le chantier sous les meilleurs auspices. Les travaux commencent un jour favorable, d'un point de vue religieux. Sa volonté, construire une ville à son image. Les proportions reposent sur la base d'une symbolique liée à sa personne. Je le cite. « De 16 283 grandes coudées, ce qui est la valeur de mon nom, j'ai établi le périmètre de son rempart. » Le lien entre ce nombre et le nom de Sargon n'a pas été élucidé à ce jour. La ville de Khorsabad a été édifiée grâce au travail forcé des prisonniers de guerre et des populations civiles déportées des royaumes soumis, mais également grâce aux Assyriens. Une inscription de fondation en atteste. « Je fis fondre et j'installai dans cette ville des populations des quatre coins du monde, de langues étrangères, aux parlers différents, originaires de la montagne et du plat pays, autant qu'en fait paître la lumière des dieux, et dont je me suis emparé sur l'ordre d'Assur, mon seigneur, par le pouvoir de mon sceptre. Pour les surveiller et les diriger, je leur mandais de vrais Assyriens d'une compétence universelle afin de leur apprendre comment se conduire et la révérence due à la divinité et au roi. En ce qui concerne les ouvriers assyriens, il annule leurs dettes afin de se procurer un flux régulier de main-d'œuvre et demande à ses contremaîtres de donner des primes aux ouvriers qualifiés. Cela dans le but d'assurer la bonne qualité dans la construction de sa ville. Son implication personnelle dans les travaux est extrême. Je planifiais et pensais jour et nuit pour rendre cette ville habitable. Il sait motiver ses équipes. Dans une lettre de Sargon II au gouverneur de Kalkou, il est précisé. Parole du roi au gouverneur de Kalkou. 700 ballots de paille et 700 bottes de roseau. Chaque botte faisant plus que ce qu'un âne peut porter, devront être à disposition à Dour-Charoukine le premier du mois de Kislev. S'il y a un seul jour de retard, tu mourras. La motivation devait être au rendez-vous. Question finance. Au début des travaux, en 717 avant notre ère, il doit faire appel à des emprunts auprès de particuliers. Mais après 714, plus de problèmes de financement. Suite à sa 8e campagne militaire, le butin du pillage de la ville de Mouzazir en Urartu, en Arménie actuelle, permet un afflux de métal et des rentrées d'argent considérables. Nous sommes maintenant dans la ville de Khorsabad. Nous avons franchi l'une des 8 portes dédiées au panthéon assyrien qui ponctue la muraille. Cette enceinte quadrangulaire cerne une superficie de 300 hectares, rappelons-le. Le plan est proche de l'orthogonalité. Nous franchissons la porte qui mène à la ville basse. Des canalisations alimentent les hommes et les arbres. Le roi voulait un parc à l'image de Lamanous, vallonné et boisé. Nous pénétrons maintenant dans la citadelle royale dominée par la ziggourate. Sur une terrasse sont érigés temples, résidences de dignitaires et le palais royal. Grandiose, situé à cheval sur la muraille, il occupe une superficie de 10 hectares. Les portes sont plaquées de bronze. Des troncs de palmiers factices sont habillés d'or. Nous sommes après 706 avant notre ère, date à laquelle les dieux furent invités à un festin sacré pour inaugurer cette ville. Deux grands espaces s'articulent autour d'une cour centrale, le Babanou, ou région de la porte, l'espace public, le Bitanou, ou région de la maison, l'espace privé, appartement du roi et des femmes. En franchissant le passage protégé par les Lamassou, nous sommes entrés dans le Babanou, l'espace public. Nous sommes dans la cour d'honneur, lieu important pour les audiences. Dans cet espace, où convergent tous ceux qui doivent allégeance au roi. L'ensemble de l'édifice est construit en briques crues, en argile. Les parties basses des murs sont couvertes de reliefs en albâtre gypseux. Ce sont des orthostates de 24 cm d'épaisseur environ. Ils ont une fonction architecturale évidente, puisqu'ils participent à la pérennité de l'édifice. Dans la cour Khorsabad du Louvre, ils sont disposés de façon à nous évoquer ce qu'était le palais originel. Ces orthostates peuvent avoir une fonction symbolique, comme nous l'avons vu avec les lamassous et les génies ailés. Ils ont aussi une fonction politique. Ils doivent impressionner, ils doivent exalter la force et le pouvoir absolu du roi. Ici, l'on voit des serviteurs portant son trône. Là, un défilé de tributaires mèdes, vêtus d'une robe courte, d'un manteau en peau de mouton ou en fourrure mouchetée de léopard, ils font acte d'allégeance en offrant la maquette de leur ville. Ils font acte de soumission en apportant un impôt, un tribut de grande valeur, ici des chevaux. Sur cet autre relief magnifique et monumental de 3,20 m de haut, nous voyons Sargon II lui-même face à un dignitaire, sans doute son fils Sennachérib. Toutes ces scènes, qui constituent un véritable documentaire sur la vie à Dur-Sharrukin et sur les campagnes militaires, étaient à l'origine polychromes. Il ne faut pas l'oublier, même si aujourd'hui nous sommes dans cette cour du Louvre, dans un de ces endroits magiques de ce musée, inondé de lumière grâce à sa verrière, où tout n'est que grandeur, monumentalité, dans un camailleux de couleur pierre. Nous sommes impressionnés, comme les visiteurs d'antan, par la puissance d'un des plus grands rois mésopotamiens, Sargon II, à la tête d'un territoire immense à vocation universelle, comme il l'affirme lui-même. À la tête d'un empire unique dans l'Antiquité, un empire pas seulement militaire, un empire qui contrôle également le commerce de l'Est à l'Ouest. Nous sommes maintenant devant l'un des premiers reliefs assyriens connus en Occident. Il comporte quatre dalles de 3 mètres de haut environ, qui s'étendent et se déroulent sur plus de 8 mètres de long, des dalles en albâtre gypseux. Ce relief illustre une des facettes de la construction du palais de Sargon II. Il illustre le commerce qui existait entre l'Empire assyrien et la Phénicie. Il illustre le transport des cèdres du Liban. La Syrie est pauvre en bois de construction de bonne qualité. Depuis le deuxième millénaire avant notre ère, elle s'approvisionne en Phénicie. Les textes cunéiformes nous le confirme. Ici, dans cette cour Khorsabad du Louvre, nous voyons se dérouler devant nos yeux un immense panorama taillé en relief dans la pierre. La représentation est dense, narrative. Les immenses dalles de pierre sont couvertes de représentations figuratives. Les différentes scènes liées à ce commerce du bois se lisent de droite à gauche, dans le sens inverse de la lecture. Sur le panneau de droite, qui mesure donc 3 mètres de haut environ, des groupes d'hommes sont figurés sur quatre niveaux, sur quatre registres. Ce relief illustre la première opération après la coupe forestière, le débardage du bois. 28 hommes s'affairent ici à transporter les arbres abattus sur le lieu de coupe vers le lieu de dépôt. En partie basse, à droite, les montagnes du Liban, les montagnes de Lamanous, sont figurées de façon schématique par des écailles. Plusieurs groupes d'hommes barbus, coiffés de casques ronds, vêtus d'un pagne, vu de profil, organisent le transport de ces troncs. Ils tirent avec peine ces grumes lourdes, pesantes. Ils regardent devant eux, concentrés dans l'effort. Ici, l'un d'entre eux se retourne comme pour s'assurer que le chargement suit sans encombre. Cet aspect réaliste donne vie à cette scène. Au centre du panneau, un homme fait face à un autre groupe. Il s'agit probablement d'un contremaître. Il les dirige d'un geste de sa main droite. Enfin, en haut à gauche, les troncs sont empilés les uns sur les autres, prêts à être embarqués. Au centre, deux dalles sont réunies pour illustrer le transport maritime. Le décor est foisonnant. Le panneau est monumental et couvert de reliefs. Les flots sont évoqués par des ondulations gravées en creux dans la pierre. Ils sont peuplés d'animaux réels, poissons, tortues, et de créatures fantastiques, des êtres protecteurs. Un homme poisson, un taureau ailé, comme ceux que nous avons évoqués au début de notre déambulation, mais cette fois de toute petite taille. Sur cette mer vivante, animée, se détachent en plus haut relief deux représentations de villes. Il s'agirait de deux cités de la côte levantine, la ville de Tyr au Liban et l'île citadelle d'Arwad, seule île de la Syrie. Sur cette mer se détachent également en haut relief de nombreuses embarcations. 10 navires phéniciens à rames, à la poupe en queue de poisson et à la proue en tête de cheval, se déploient sur toute la surface du panneau. Certains bateaux arrivent vers le rivage, d'autres s'en éloignent. 7 sont lourdement chargés de poutres embarquées à bord et de poutres remorquées. Continuons d'avancer vers la gauche. Une autre dalle de 2,40 m de large sur 3 m de haut illustre également le transport maritime. Parmi les 6 embarcations représentées, 3 déchargent leur cargaison sur le rivage. Dans chacune d'entre elles, 2 ou 3 hommes debout manient un tronc afin de le déposer sur la côte. Enfin, la dalle située complètement à gauche de cet immense panorama est partiellement lacunaire. Il n'y a pas de relief en partie haute. En partie basse, en revanche, nous assistons au halage des troncs après leur arrivée. 11 hommes tirent une charge au moyen d'une corde. Au pied d'un chemin, nous voyons un tas de 9 troncs équarris et perforés. Ces trous servent à laisser passer la corde pour la traction. Cette représentation monumentale, intitulée aujourd'hui « Transport des cèdres du Liban », est un témoignage de la remise au roi Sargon II des tribus des Phéniciens qui résidaient sur la côte syro-libanaise. Ces populations soumises apportent leur bien le plus précieux et le plus emblématique. Cet impôt est fort utile pour le souverain assyrien engagé entre 717 et 706 avant notre ère dans la construction de sa ville d'Er-Sharrukin et de son palais gigantesque. Pour la personne qui vient demander audience au roi, le message est clair. Son pouvoir est universel et les peuples conquis lui sont soumis. Aujourd'hui, nous dirions qu'il s'agit d'un art de propagande. Il est temps maintenant de s'interroger sur la destinée de ce roi et de cette ville d'Er-Sharrukin, inaugurée avec les dieux en 706 avant notre ère. Un an après, en 705 avant notre ère, alors que Sargon II est à l'apogée de sa puissance, il part de nouveau en campagne, cette fois dans les monts Taurus, au sud-est de l'Anatolie. Il meurt sur le champ de bataille de Tabal. Son corps n'est pas retrouvé. Maudit à jamais, il ne pourra rejoindre le séjour des bienheureux. Son fils Sennachérib s'interroge alors sur le sort de son père. Pourquoi n'a-t-il pas été protégé? Quelle faute a-t-il commise? Conséquence immédiate, la nouvelle ville d'Er-Sharrukin est abandonnée. Sennachérib décide de gouverner depuis Ninive. Ninive sera la dernière des capitales assyriennes. La ville d'Er-Sharrukin tombe alors dans l'oubli pendant près de 2500 ans, jusqu'au milieu du 19e siècle. En 1842, est ouvert un poste de consul de France à Mossoul, en face de Ninive, site archéologique considérable occupé pendant au moins 6000 ans. Le médecin et le botaniste Paul-Émile Botta a fait le tour du monde. Il a une bonne connaissance de l'Orient, il prend ses fonctions et commence à fouiller Ninive. Il joue de malchance et ne trouve presque rien, contrairement aux Anglais quelques années plus tard. Avec une équipe, il se rend alors à Khorsabad et là, il découvre, 25 siècles après, quelque chose que tout le monde a oublié, une ville entière. Il y a bien quelques informations chez les auteurs grecs, une allusion à Sargon dans la Bible. Mais à l'époque, il faut s'imaginer que l'on ne connaît rien de la civilisation mésopotamienne. On ne comprend pas les objets. On ne lit pas le cunéiforme. Dans un vaste monticule de terre, immortalisé par le peintre Eugène Flandrin, il découvre des taureaux ailés, les vestiges d'un palais dont la salle du trône fait la moitié de la superficie de la galerie des glaces à Versailles. Botta envoie des dessins, copie des inscriptions cunéiformes. C'est un moment capital dans l'histoire de l'orientalisme. Ses premières fouilles en Mésopotamie font sortir de l'ombre tout un pan du passé. En 1846, les premiers taureaux ailés arrivent en France. Paul-Émile Botta a été obligé de les sectionner en 6 morceaux pour les faire voyager, tellement ils étaient lourds et intransportables. Nous nous souvenons des reliefs de Ninive et des 300 hommes nécessaires au déplacement de ces monolithes. Les découvertes sont exposées au Louvre, le musée assyrien est créé. Le Louvre est le premier musée du monde à présenter cet art jusqu'alors inconnu de tous. C'est la naissance de l'archéologie, c'est la naissance du musée universel. La presse relaie, c'est un énorme succès. C'est une révélation pour les savants, les artistes, le public. Une véritable mode naît, qualifiée d'Assyriomania ou encore d'Assyromanie. Le peintre Courbet, lui-même, se fait tailler la barbe à la syrienne. L'engouement est général. Victor Place succède à Paul-Émile Botta. Il s'efforce de comprendre la structure du palais, des fondations jusqu'à la toiture. Son travail à Khorsabad est riche, instructif, passionnant. Avec le peintre Félix Thomas, il montre que cette architecture monumentale est colorée. C'est aussi la première fois que la photographie est utilisée sur un chantier archéologique. L'ingénieur Gabriel Tranchant documente les fouilles au moyen de calotypes. Victor Place mène plusieurs campagnes de fouilles afin de rapporter des objets en France. Mais la ville de Khorsabad est loin de tout et la main-d'œuvre moins abondante que sous le règne de Sargon II. En 1853, finalement, la totalité des antiques qui doivent partir pour la France sont réunies au bord du Tigre, y compris deux grands taureaux à face d'homme, à l'état de monolithes, pesant environ 32 000 kilos chacun. Des radeaux doivent les conduire à Bassora. Techniquement, c'est très complexe. Le contexte politique est difficile. Le gouverneur général de Bagdad le met en garde. Il ne pourra assurer la sécurité du convoi. Le colonel Rawlinson, consul général britannique à Bagdad, alors en charge des fouilles pour le British Museum, l'avertit également des dangers de l'expédition. Les tribus arabes du Bas-Tigre et du Tchat el-Arabe sont en pleine insurrection. Les pirates sont de connivence avec ces tribus révoltées. Mais Victor Place subit parallèlement la pression du ministère français, le convoi doit partir absolument. Il est finalement la cible de plusieurs pillages. De nombreux bateaux coulent. Seulement 25 caisses sur les 300 initiales arriveront à destination au Louvre. Maurice Pillet, en 1916, relate dans le détail ce naufrage d'antiquité dans le Tigre. Des chefs-d'œuvre tels que l'arc triomphal et les plinthes émaillées du palais de Khorsabad sont perdus à jamais. Des tentatives sont menées pour sauver quelques objets, mais la révolte arabe est toujours maîtresse des rives du Tigre et de l'Euphrate. Le péril est grand. Les orthostates au fond de l'eau restent irrécupérables. Un seul instant a vu sombrer tant de légitimes espérances, écrit Victor Place au ministre Achille Fou. Pourrait-on imaginer de revoir un jour ces objets qui ont coulé au fond du Tigre, ce grand taureau de 32 000 kilos qui gise dans la vase de Mahagil, d'autres précieux reliefs, témoignages de ce grand empire. Malheureusement, l'albâtre gypseux supporte très mal l'humidité. Il est donc à craindre que l'expédition, si tant est qu'elle soit possible, n'en vaille pas la peine. Un naufrage d'antiquité dans le Tigre. 4 années de travail acharné. 4 années de fouilles anéanties. Un véritable désastre pour la science. Est-ce la malédiction de Sargon qui se poursuit? L'histoire contemporaine semble le confirmer. En 1957, le département des antiquités d'Irak, dirigé par Fouad Safar, entreprend de nouvelles fouilles à Khorsabad. De nouveaux taureaux sont exhumés. On découvre le temple des Sibiti. Son matériel rejoint les collections du musée d'Irak. Mais 2014, prise de Mossoul par l'État islamique. 2015, destruction d'au moins 28 monuments historiques. 2015, les sites de Nimroud, Ninive et Hatra subissent des destructions volontaires. 2015, au musée de Mossoul. En plus de la section assyrienne saccagée, 25 000 ouvrages de la bibliothèque sont brûlés et la salle d'art islamique vidée de ses objets, vendue par le groupe armé au marché noir. Daesh voulait détruire la culture, l'identité de la ville, nous dit Zaïd Ghazi, directeur du musée de Mossoul, qui reste encore aujourd'hui fermé au public. Cela n'est pas sans nous rappeler les destructions des Bouddhas de Bamiyan en 2001. Aujourd'hui, le ministère irakien du Tourisme et des Antiquités dit craindre pour la sauvegarde du site de Khorsabad, susceptible de faire encore l'objet de pillage. Devoir de mémoire. Les réponses sont multiples. En 2015-2016, un projet de reconstitution virtuelle de Khorsabad est mené à bien. Il est désormais possible de déambuler virtuellement dans la ville de Sargon II, depuis les abords extérieurs de la cité jusqu'aux pièces les plus officielles du palais, richement ornées de reliefs, dont certains sont conservés ici, au musée du Louvre. Devoir de mémoire. À Trafalgar Square, à proximité de la National Gallery, est installée en 2018 l'œuvre contemporaine de l'artiste Michael Rakowitz, intitulée « The Invisible Enemy Shouldn't Exist ». L'ennemi invisible ne devrait pas exister. C'est une réplique du taureau ailé à tête d'homme de Ninive, datant de 700 avant, celui qui fut détruit par Isis en 2015. Il s'agit d'un lamassu, non pas monolithe cette fois, mais constitué de 10 000 boîtes de conserve, aplaties, colorées, des conserves de sirop de date irakien, en référence à l'industrie irakienne, elle aussi détruite par les guerres, en référence à un proverbe irakien qui dit qu'une maison avec un dattier ne mourra jamais de faim. Cette œuvre s'inscrit dans le projet de Rakowitz, un projet extrêmement ambitieux, initié dès 2003, visant à reconstruire les 7000 objets du musée national irakien perdus en raison des pillages et des guerres. Devoir de mémoire, devoir de conservation. Aujourd'hui, le directeur du musée de Mossoul, Zaïd Ghazi, peut compter sur l'aide des soutiens internationaux, dont le musée du Louvre et le Smithsonian, pour mener à bien son objectif. Les travaux prendront au moins 5 ans. Nous conclurons sur ces paroles pleines de force et d'espoir. Il est crucial de reconstruire le musée parce que c'est un héritage qui représente Mossoul à travers le temps. C'est un miroir de notre histoire. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de février 2021 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre flânerie, j'ai choisi le compositeur et virtuose joueur de oud, Rahim Alaj. Il a dû quitter son pays, l'Irak, en 1991 et aujourd'hui il performe dans le monde entier. Il aime mêler tradition et innovation pour faire naître une musique envoûtante. Je tiens à le remercier chaleureusement d'avoir bien voulu que sa musique nous accompagne dans notre voyage dans le temps et dans l'espace à Khorsabad. Les extraits proviennent du morceau intitulé « Going Home » du CD « Little Hearth » de Raïm Alaj. Je vous invite à consulter son site raimalaj.com pour en savoir plus sur son œuvre. Thank you very much to Raïm Alaj. If you want to know more about his music, I invite you to go on his website, raimalaj.com. The extract you heard today is coming from the music Going Home of the CD Little Earth.